Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Pendant une heure, nous allons découvrir des Françaises et des Français qui se mobilisent pour préparer le monde de demain. Ici, c'est simple, on trouve des solutions et elles sont françaises. Ensemble, on en parle avec Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à toutes et à tous. C'est la semaine mondiale de lutte contre le cancer. À l'heure du Covid et de nos hôpitaux surchargés, est-ce que l'on ne perd pas du temps dans cette lutte? Sur quoi innove-t-on? On en parle jusqu'à 14h avec l'un des plus grands spécialistes en la matière en France, le professeur Fabrice Barlesi de Gustave Roussy.
À la une, en effet, le dépistage précoce, c'est la clé, c'est l'une des clés pour guérir du cancer. Une start-up mobilise l'intelligence artificielle pour dépister notamment le cancer du poumon. Médian Technologies à Sophia Antipolis développe cette médecine prédictive. On en saura plus avec son PDG d'ici quelques minutes.
C'est l'inventeur du tensiomètre. Aujourd'hui, il fabrique aussi bien des thermomètres ou des stéthoscopes. Né en 1907, Spengler exporte dans 85 pays et ce sera notre saga du jour.
Chaque jour dans La France bouge, nous écoutons le projet d'une entrepreneur ou d'un entrepreneur qui se lance. Le pitch du jour, Inurse, ce sont des compléments alimentaires sous la forme de poudre. Ce projet tient-il la route? Réponse 13h45.
Et puis demain au travail, comment intégrer le mieux possible les malades atteints de cancer dans les entreprises? On passera un coup de fil à la dirigeante de We Care at Work.
Et c'est ça, la France bouge, c'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
C'est donc la semaine internationale de lutte contre le cancer. Quelles sont les innovations en la matière? Comment détecter, parce que ça c'est sûrement le plus important, le plus précocement possible les tumeurs? On en parle avec notre témoin du jour.
Bonjour professeur Fabrice Barlesi.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur médical et de la recherche clinique à l'Institut Gustave Roussy. Gustave Roussy, c'est le premier centre de soins, de recherche et d'enseignement en cancérologie d'Europe. 3200 professionnels, dont 1000 chercheurs. Alors si vous le voulez bien, professeur, on va commencer par l'actualité. Les lits de réanimation sont utilisés à 100% en Île-de-France. Ça n'arrête pas de monter, là on le vérifie, hein, d'heure en heure.
101,7 si on veut être précis selon le dernier comptage.
Vous faites partie des deux seuls centres cancer en France, avec celui de Marseille, à avoir une réanimation. Vous avez 12 lits. Êtes-vous réquisitionné comme lors de la première vague?
Effectivement, lors de la première vague, Gustave Roussy, pour la première fois de son histoire, a accueilli des malades atteints du Covid et qui n'étaient pas porteurs de pathologies cancéreuses. Et pendant la première vague, on a augmenté nos capacités de réanimation de 12 à 28 lits pour pouvoir assurer un service à la population d'Île-de-France. Et c'est évidemment ce qu'on s'apprête à nouveau à faire à la demande de l'ARS, où on a mobilisé des ressources pour augmenter nos capacités de réanimation pour pouvoir prendre en charge ces malades si nécessaire.
Quand vous dites vous apprêtez à le faire, c'est que là, vous attendez le coup de fil pour dire on vous en envoie quelques malades?
L'organisation est en place et on a des lits prévus pour pouvoir accueillir des malades, soit nos malades qui seraient atteints d'une pathologie Covid grave, soit des malades éventuellement extérieurs.
Cette situation, professeur Barlesi, vous oblige-t-elle à déprogrammer des interventions de personnes malades de cancer?
Malheureusement, c'est une situation qui peut, à l'extrême, pousser effectivement à des déprogrammations, puisqu'en fait, les réserves que l'on peut avoir pour augmenter les lits de réanimation sont des personnels et des machines qui sont utilisées normalement au bloc opératoire. Donc on est obligé de diminuer le bloc opératoire pour augmenter la réanimation. On essaye de le faire le moins possible, de garder un bloc opératoire disponible pour toutes les activités de diagnostic qui sont évidemment primordiales, mais également pour les opérations carcinologiques les plus importantes. On déprogramme certaines, ou en tout cas on décale un certain nombre d'autres interventions.
Mais on peut avoir une petite idée de la proportion, c'est 5, c'est 10% de ce que vous auriez dû faire que vous déprogrammez en ce
ou
moment
décaler,
à cause
oui.
de cette crise du Covid?
Aujourd'hui, pour vous donner une proportion, on a actuellement 3 salles sur 18 qui sont fermées, et si on doit aller plus loin, on aura jusqu'à 8 salles ou 10 salles fermées éventuellement pour pouvoir assurer la réanimation.
On dit beaucoup en ce moment qu'il y a pas mal de personnes qui, à cause de cette pandémie, sont moins soignées. Et ça concerne les personnes malades atteintes d'un cancer. Quand on dit moins soignées, ça veut dire qu'on fait un examen et on va attendre peut-être plusieurs semaines avant d'avoir un résultat ou avant d'avoir un rendez-vous ou avant de commencer un traitement. Est-ce que vous, professeur Fabrice Barlesi, à l'Institut Gustave Roussy, vous l'observez aussi?
Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Ce qui est certain, c'est que pendant la première vague, quand il y a eu ce premier confinement et que vraiment d'énormes précautions étaient prises vis-à-vis du système de santé, effectivement, il y a certainement un certain nombre d'examens à visée diagnostique, qu'ils soient radiologiques ou endoscopiques ou des biopsies qui n'ont pas été réalisées, qui ont décalé la prise en charge.
En ce moment,
le diagnostic est fait, je pense que la prise en charge est organisée et rapide.
Mais
en ce moment...
Oui, on sait combien le diagnostic est important.
Bien sûr.
Donc,
et c'est bien la raison pour laquelle je vous ai précisé que dans nos blocs opératoires, on garde toutes les activités de diagnostic actives.
Mais justement de tout cela, est-ce qu'on peut en voir l'impact aujourd'hui? Déjà de se dire que depuis un an, certaines personnes ont décalé peut-être des diagnostics et peut-être même que des gens qui ont l'impression d'avoir des symptômes se disent « Oula, je vais attendre un peu parce que j'ai pas en plus envie d'avoir le Covid si je vais dans un hôpital ». Est-ce qu'on en connaît déjà l'impact sur la santé de ces malades potentiellement atteints de cancer?
Alors j'espère que non, parce que tous les efforts ont été faits en tous les cas pour informer les patients, pour leur dire qu'il ne fallait pas retarder le diagnostic et deux, qu'il n'y avait pas de risque de contracter le Covid à l'intérieur des structures qui sont organisées pour. Il est très difficile de mesurer l'impact. Il est certain que des dizaines de milliers de diagnostics ont probablement été décalés dans le temps. Gustave Roussy, avec son équipe de biostatistique, a tenté de modéliser les conséquences de ces retards de diagnostic et de ces décalages de prise en charge. On évalue qu'à peu près 6 à 8% de nos patients auraient pu avoir un décalage d'au moins 2 mois dans leur prise en charge. Et ce décalage pourrait conduire, dans les situations les plus graves, dans les pathologies les plus agressives, à une augmentation de mortalité qui pourrait être de l'ordre de 4 à 6% à 5 ans. Bien sûr, ce sont uniquement des projections, des modélisations. Il faudra voir les chiffres au fur et à mesure du temps.
Alors, et pourtant, on le sait, le dépistage, la sensibilisation sont indispensables. Vous venez de le dire, professeur Barlesi, vous en avez parlé, vous avez sensibilisé les personnes. Comment donner envie aux gens de revenir, tout simplement, de revenir vous voir, de se faire dépister, de faire une mammographie, de faire une coloscopie? Comment leur donner envie?
Simplement en les rassurant avec des données scientifiques, factuelles et objectives. Aujourd'hui, si je vous cite l'exemple du taux de patients qui ont un diagnostic Covid positif à Gustave Roussy, il est 3 fois inférieur à la population générale. Ce qui veut donc dire que lorsque les mesures sont mises en œuvre, lorsque les patients sont informés, lorsqu'on les aide à s'organiser, finalement, le risque qu'ils se contaminent est extrêmement faible et ils se contaminent en général à l'extérieur de l'institution. Donc clairement, aujourd'hui, il n'y a aucune raison que ces malades payent un double prix à la crise Covid, à la fois le Covid et un délai dans leur diagnostic.
Venez donc vous faire diagnostiquer, c'est ce que vous nous dites, professeur.
Il faut pas hésiter.
Fabrice Barlesi, vous êtes le directeur médical et de la recherche clinique à l'Institut Gustave Roussy. Vous êtes notre grand témoin du jour et vous restez avec nous.
Et il est presque 13h18.
À suivre, l'intelligence artificielle au service de la détection des cancers. On a trouvé une start-up à Sophia Antipolis.
Oui, grâce à une analyse très fine des images radiologiques, Médian Technologies se mobilise pour justement les diagnostics précoces. Et on parle de tout cela dans un instant. Une France bouge spéciale aujourd'hui à l'occasion de la Semaine internationale de lutte contre le cancer. On voit comment la France innove. On va continuer pendant toutes ces émissions à être en pointe là-dessus avec l'un des meilleurs spécialistes en la matière, Fabrice Barlesi, qui est le directeur médical de la recherche clinique à l'Institut Gustave Roussy.
Et plus un cancer est détecté à temps, plus les chances de guérison sont importantes. On a trouvé une solution totalement unique, qui permet de repérer des tumeurs que l'on ne peut pas analyser à l'œil nu à partir d'une radio. Bonjour Frédéric Brague.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de Médian Technologies. Médian a été fondé en 2002. Vous êtes situé à Sophia Antipolis, dans les Alpes-Maritimes. L'idée avec votre solution, c'est de trouver des marqueurs sur des images, des images de scanner ou d'IRM. Et là, vous faites intervenir l'intelligence artificielle pour repérer des formes de tumeurs que personne ne peut repérer, détecter à l'œil nu.
Oui, ce qu'on fait, c'est un peu comme... dans un autre état d'esprit, on a séquencé le génome. Nous, on essaie de séquencer l'image, c'est-à-dire de retirer des images tous les signaux qui composent l'image, et sans avoir d'a priori, sans savoir ce que c'est. À partir de là, c'est un peu comme... on a tous des empreintes digitales, et je peux vous retrouver, vous tous, simplement avec les quelques marques que vous allez laisser sur le coin de la table. Nous, on essaie de repérer et de comprendre quelles sont les empreintes digitales, par exemple, du cancer du poumon, quelles sont les empreintes digitales du cancer du foie, et de le trouver de manière le plus précoce possible. Alors tout ça, c'est pas que basé sur l'image, parce que l'image, c'est qu'une information anatomique. En fait, l'image, on n'a pas d'information ni cellulaire, ni génétique. Mais on va corréler cette information avec...
avec des marqueurs sanguins,
voilà,
j'imagine.
Ça va être des marqueurs sanguins, ou avec les biopsies. et pour vraiment donner une explication à quoi correspond le signal.
Et donc, comme le disait Elisabeth, hein, c'est unique. Vous avez mis, je crois, 20 ans pour développer ce projet et tout est parti d'une expérience personnelle, je crois qu'on peut le dire. Hein, vous avez perdu, je crois, un ami, il avait 35 ans, il est décédé très jeune d'un mélanome. Et là, vous avez dit, c'est pas possible, il faut trouver une solution pour qu'on détecte beaucoup plus vite.
Je crois que c'est pas anodin, je crois qu'on pourrait poser la question au professeur Bardesi. Toutes les personnes qui sont vraiment concernées par ça, il y a une motivation qui va au-delà de simplement l'aspect professionnel et qui est très personnel. Donc pour moi, oui, c'était un de mes plus anciens amis d'enfance qui a été mal diagnostiqué d'un mélanome, qui a la caractéristique d'être local pendant très longtemps.
Et ensuite, qui se propage.
Et malheureusement, ensuite, ça s'est propagé. Donc, et moi, à l'époque, je savais qu'en France, on avait des technologies extraordinaires d'un point de vue traitement d'image et intelligence artificielle. Déjà, il y a 20 ans, c'était tous les travaux qu'on a fait avec les militaires, etc.
Et mais 20 ans, c'est quand même... Alors, je sais que le champ médical est très long, la recherche médicale est très longue, mais 20 ans, il faut vouloir tenir, pouvoir tenir même.
Ben, j'allais dire qu'on est entrepreneur et encore plus dans la santé, il faut beaucoup de résilience. Donc, je crois
surtout que en France, non. Beaucoup de résilience. J'ai l'impression qu'en vous écoutant, séquencer des images et utiliser l'intelligence artificielle, c'est une sorte de double dépistage en quelque sorte.
Oui, alors l'idée, c'est d'essayer d'apporter vraiment un dépistage précoce, parce qu'il y a une chose qu'on connaît aussi avec le cancer, il y en a plein d'autres, mais c'est qu'il y a une corrélation entre le stade d'avancement de la maladie et la capacité de sauver le patient. C'est-à-dire, plus on le détecte tôt, plus on a une chance d'aider le patient. Et là, malheureusement, sur l'image, c'est des choses qu'on ne voit pas, ou qu'on a beaucoup de mal à comprendre à quoi ça correspond. Donc là, c'est utiliser l'intelligence artificielle pour expliquer ce que c'est.
Vous en êtes encore au moment des tests cliniques, hein, parce que là, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont en train de nous écouter en voiture à la maison, qui se disent c'est où, c'est quand, c'est comment que je peux utiliser ça. Justement, c'est où, c'est quand, c'est comment d'après vous, à partir des tests techniques qui sont déjà très avancés.
Alors, ce que je peux dire, c'est que la technologie existe, qu'elle marche plutôt très bien. Maintenant, c'est comme sur la mise sur le marché d'un médicament, il y a des tests de validation clinique qui ont lieu. Et pour nous, en tout cas, pour la partie poumon, ça sera un horizon 2023 pour une mise sur le marché pour 2023.
Alors qu'il est à combien sont les taux de réussite ? Parce que vous êtes déjà en train de faire des tests. Hein, je vous avais des données de plus de 17 000 patients du monde entier.
Oui, on arrive à des taux de détection de plus de 90% et on pense vraiment encore pouvoir améliorer ça assez fortement.
Votre cible, ce sont des populations à risque ou c'est tout le monde ?
Alors les deux, en premier lieu, si on prend cancer du poumon, on va choisir des populations à risque qui sont déterminées par les autorités savantes, c'est pas nous, donc ça c'est des catégories de fumeurs ou des gens qui ont d'autres risques de...
Des cancers familiaux.
Voilà, exactement.
Fabrice Barlesi, je rappelle que vous êtes le directeur médical et de la recherche clinique à l'Institut Gustave Roussy, qui est le plus grand pôle en Europe. On le dit pas assez qu'en France, on a le plus grand pôle de lutte contre la cancérologie. Vous travaillez vous-même sur un programme qui s'appelle Interception, alors je sais pas si on le dit en anglais ou en français, Interception on va dire, un peu comme dans le domaine militaire, vous voulez intercepter non pas le missile, mais la tumeur avant qu'elle ne fasse trop de dégâts. C'est toute cette logique, aller le plus vite possible.
Alors c'est pas moi, c'est un programme qui est l'idée par le docteur Suzette de la Loge, mais effectivement l'idée c'est d'être capable d'identifier les sujets, parce que ce ne sont pas des malades, qui sont le plus à risque, de comprendre ce risque et de réverser ce risque pour que jamais il ne se matérialise sous la forme d'une maladie cancéreuse, et donc intercepter ce risque avant qu'il devienne une maladie. Et c'est un programme, effectivement, dont les premiers patients ont débuté en début d'année.
Mais il y a la notion de surdépistage dans tout cela, quand je vous entends, parce que parfois, il y a des tumeurs, mais elles ne se développeront jamais. Donc, n'y a-t-il pas un effet aussi où on doit peut-être traiter quelque chose, anticiper et donc réveiller une tumeur qui peut-être ne se serait jamais réveillée, Frédéric Bragg, par exemple?
Oui, ça c'est un des grands risques typiquement, c'est pour ça que dans beaucoup de pays on fait très attention au programme de dépistage, parce que ça génère plein de ce qu'on appelle des faux positifs, où on trouve des cancers bénins qui vont lier à des interventions dont on n'aurait pas eu besoin. Mais toute l'idée de l'intelligence artificielle aujourd'hui, les avancées de la technologie, parce que c'est pas que l'imagerie, ça avance dans tous les domaines, c'est la conjonction de marqueurs qui viennent de différents endroits pour arriver de manière le plus précise à déterminer si c'est un cancer justement agressif ou non agressif, ou si c'est pas un cancer.
En tout cas, les tests sont en cours, hein, vous êtes en plein essai clinique, on vous souhaite évidemment que ça marche et que ça réussisse, parce qu'on ne dépiste
en tout cas,
jamais
vous nous tenez
assez.
Au courant.
Et vous nous tenez au courant, Frédéric Bragg, PDG de Médian Technologies. Merci à vous.
Et le professeur Fabrice Barlesi, qui est notre grand témoin aujourd'hui. Vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1.
Et Europe 1, il est 13h26, à suivre le matériel. C'est essentiel pour que nos médecins puissent travailler correctement. Tiens, on va aller voir ceux qui inventaient le tensiomètre. C'était en 1907.
Oui, et ça a été inventé en France. Il s'appelle Spengler. Et Spengler, aujourd'hui, exporte dans 85 pays. Ce sera notre saga du jour. Et comme chaque jour avec Elisabeth, on est ravis de vous accueillir en direct de 13h à 14h sur Europe 1 pour La France Bouge aujourd'hui avec notre grand témoin du jour, le professeur Fabrice Barlesi, qui est le directeur médical et de la recherche clinique à l'Institut Gustave Roussy, qui est le plus grand centre en Europe de lutte contre le cancer basé en banlieue parisienne. Alors on parle beaucoup de l'ARN messager pour les vaccins contre le Covid. C'est la technologie utilisée notamment par Pfizer et Moderna, une technologie qui semble-t-il pourrait aussi être très efficace dans la lutte contre les cancers. Pardonnez-moi l'expression que je vais utiliser, mais entre guillemets, est-ce que cette épidémie aura fait aussi avancer la science de plusieurs années grâce à ces technologies pour vous aider, vous aussi, dans votre lutte contre le cancer ?
En tout cas, ce qu'il faut juste rappeler pour comprendre à quoi ça sert, c'est l'idée que le système immunitaire, notre système immunitaire, nous aide à lutter contre les pathologies cancéreuses. Et donc, effectivement, ces technologies ont été développées au départ avec l'idée d'être utilisées dans le domaine de l'oncologie. Et évidemment, ce qui se passe aujourd'hui dans le contexte du Covid va probablement renforcer l'expérience et l'expertise à la fois dans les laboratoires de recherche, mais également dans les sociétés qui sont basées sur ces technologies et qui, du coup, vont pouvoir, à l'issue de la crise, évidemment, je l'espère, participer à la lutte contre les pathologies cancéreuses.
Mais en quoi cette technologie de l'ARN peut être porteuse dans la lutte contre le cancer ? On peut l'insérer dans quoi ?
Exactement, en fait, comme on l'utilise pour le Covid.
Le vaccin.
C'est-à-dire, en fait, on va essayer d'éduquer des cellules du système immunitaire à reconnaître une anomalie biologique spécifiquement présente sur les cellules cancéreuses et donc venir les reconnaître et les détruire.
Allez-y, Elisabeth.
La France, on l'a vu, elle n'a pas encore son vaccin anti-Covid. On a clairement raté le virage de l'ARN. Comment faire en sorte que ça n'arrive pas, là, cette fois-ci, pour le cancer et que, voilà, on soit les premiers à pouvoir trouver des traitements à base d'ARN messager pour lutter contre le cancer ?
À base d'ARN messager ou autre, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, l'expérience qu'on peut tirer, c'est finalement capitaliser sur ce que Gustave Roussy nous a appris, le côté multidisciplinaire, mettre ensemble des forces qui vont, de manière conjointe, participer à la création et à la découverte de nouvelles solutions thérapeutiques, mais aussi leur développement. Donc mettre ensemble des chercheurs, des médecins, des industriels pour construire un cluster, pour construire un cluster médico-scientifique
positif,
et industriel.
Un cluster positif,
exactement, à l'image un peu de ce qu'on peut trouver, notamment en Amérique du Nord, dans la région de Boston, par exemple.
Oui, mais on a été très en avance, puisque typiquement, ce qui a été fait à Gustave Roussy, on était un peu précurseur en Europe. Mais c'est intéressant ce que disait Elisabeth Assayac. Est-ce qu'on risque pas là de se faire dépasser, tout simplement, peut-être par manque de moyens ? Il y a un nouveau plan cancer qui vient d'être lancé. Il y a 1,7 milliard, je crois, qui est rajouté sur les prochaines années. 20% va aller directement à la recherche. Mais est-ce que c'est suffisant dans cette guerre mondiale contre les cancers ?
L'argent ne fait pas tout, mais il fait beaucoup, évidemment. Mais ce qui va être important, c'est de mettre tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le cancer, en tout cas dans la génération de nouvelles stratégies thérapeutiques en cancer, autour de la même table.
Donc,
et ce qui tue, c'est les activités qui sont en silo, les chercheurs d'un côté, les médecins de l'autre et les industriels.
Là aussi, si on reprend l'analogie avec le Covid, est-ce que vous pouvez maintenant plus facilement aller leur dire, vous voyez ce qu'on a raté pour la lutte contre le Covid, donnez-nous les moyens, permettez-nous de nous rassembler, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que vous pensez que ça peut bénéficier, accélérer,
ça
je ne sais pas quel mot utiliser.
Faire sauter les verrous.
Voilà, exactement.
En tous les cas, on peut espérer qu'on a des dirigeants suffisamment intelligents pour tirer les leçons de ce qui s'est passé et qu'effectivement, voyant les exemples étrangers et voyant ce que la France est capable de produire aujourd'hui et l'intelligence qui existe en France, dont un certain nombre de talents se sont expatriés et ont conduit au succès de ces industriels, ben finalement, on peut imaginer évidemment qu'on tirera les leçons et qu'on construira de vrais champions de la cancérologie pour demain.
Donc ça va passer par des partenariats publics-privés, là. On est obligé de passer par là.
C'est absolument inévitable. Chacun a son savoir-faire et chacun doit participer à sa manière, mais sur le même campus.
On le dit depuis le début de cette émission, mais c'est important de savoir qu'en France, on a l'un des plus grands centres, allez, on va dire au monde, puisque vu qu'on a le leader en Europe, on a l'un des plus grands centres au monde de lutte contre le cancer. Vous travaillez concrètement sur quoi pour demain, pour après-demain ? C'est quoi les innovations qui vous donnent espoir en ce moment à Gustave Roussy ?
Alors en fait, Gustave Roussy, dans son plan stratégique, a un plan de recherche qui est basé sur 10 programmes qui sont des programmes flagship, un peu des programmes emblématiques, qui vont aller, donc on en a parlé tout à l'heure, du programme interception, c'est-à-dire d'identifier très tôt des malades à risque, les dépister le plus tôt possible, avoir, sur le plan de la prise en charge thérapeutique, une capacité à aller de plus en plus loin dans la médecine de précision, c'est-à-dire un traitement qui va être précisément adapté
sur mesure,
à la maladie, exactement, à la maladie du patient, mais également à ce qu'il est lui-même. Et puis, développer également des techniques chirurgicales, par exemple, avec le développement d'un laboratoire qui va être un laboratoire d'innovation autour des nouveaux outils chirurgicaux, mais aussi s'intéresser à ce qui se passe après le cancer, en essayant de faire en sorte que les malades qui auront été traités aient le moins de séquelles possible. Bien sûr, de grands programmes d'immunothérapie, on vient d'en parler, on sait que la manipulation du système immunitaire est clairement un des enjeux et une des armes majeures dans la lutte contre le cancer et la possibilité de guérir un certain nombre de nos patients. Et puis, sans oublier, bien sûr, les pathologies qui peuvent être les plus rares, comme des pathologies pédiatriques sur lesquelles il y a encore énormément d'efforts à faire pour ces petits-enfants.
L'après-cancer, des structures privées y pensent sérieusement, hein, à l'instar de l'Institut Raphaël à Neuilly-sur-Seine, qui est une structure dédiée à l'après-cancer. Est-ce que du côté de Gustave Roussy, aussi, on prépare cet après-cancer ?
Clairement, c'est un enjeu majeur. On a déjà créé l'année dernière un département qui est un département interdisciplinaire d'organisation du parcours patient. C'est-à-dire finalement avoir la capacité à accompagner le patient du début de son diagnostic, au travers de sa maladie, mais également après.
Oui, l'objectif... parce qu'après, ils se sentent seuls, parfois ils se sentent un petit peu dans la nature.
Ils peuvent se sentir isolés et puis le but, c'est de les accompagner à un retour à la vie normale le plus rapidement possible. L'objectif n'est pas de garder des gens éventuellement malades et le but est de diminuer les séquelles de ces patients pour qu'ils puissent naturellement retrouver la vie la plus normale possible et le plus vite possible.
Dans La France Bouge, chaque jour, professeur Barlesi, nous découvrons une marque, un produit ou un endroit qui font la fierté de notre pays avec souvent un savoir-faire bien particulier qui a traversé des générations. Et aujourd'hui, on va s'arrêter sur l'entreprise qui a inventé le tensiomètre. Tous les soignants, tout le monde l'utilise, ce tensiomètre. Il est indispensable. Depuis 1907, c'est l'entreprise Spengler qui conçoit ces instruments médicaux.
Et c'est notre saga du jour, racontée aujourd'hui par Quentin Paillet.
Europe 1, la France bouge, la saga.
C'est une vieille marque française très peu connue du grand public mais prisée par les professionnels de la santé. Stéthoscope, tensiomètre, oxymètre pour prendre le pouls ou tout simplement lampe-stylo pour regarder au fond de la gorge. Sans le savoir, vous avez certainement déjà eu affaire à un produit Spengler. La marque est née en 1907 de la rencontre de trois hommes, un industriel et deux médecins qui ont tous les trois laissé leur nom dans l'histoire. Joël Malabat, président de Spengler.
Spengler, c'est la rencontre entre un industriel qui s'appelait tout simplement Émile Spengler et deux cardiologues qui étaient Henri Vaquez et Charles Lobry, qui tous deux ont marqué leur époque parce que Vaquez en fait a donné son nom à la maladie de Vaquez qui est en fait le cancer du sang. Et Charles Lobry, le second professeur, a créé la Société française de cardiologie en 1937, société savante qui existe toujours. Ils avaient un atelier rue de l'Odéon à Paris et ils ont inventé le premier appareil de mesure de la pression artérielle et qui restait d'ailleurs sous le nom de Vaquez-Lobry et que la société Spengler commercialise toujours aujourd'hui.
Et l'invention du tensiomètre par les trois hommes n'est pas anecdotique. Avant cette révolution, la mesure de la tension artérielle était un peu barbare, voire dangereuse pour le patient.
Donc il y avait diverses manières de faire, on faisait des saignées, donc c'était quand même pas forcément très agréable. Ensuite, il y a eu des appareils qui se sont développés au 19e siècle, mais des appareils qui étaient invasifs, il fallait rentrer un objet dans le corps du patient. Et c'est donc en France, Émile Spengler, Charles Lobry et Henri Vaquez qui ont réussi cette prouesse. Et ça a vraiment révolutionné le diagnostic du patient, parce qu'on a tout de suite apporté un confort dans la prise de mesure et surtout une prise en charge de la maladie qui était beaucoup plus facile.
Le matériel médical Spengler est aujourd'hui incontournable dans les cabinets des médecins. L'entreprise innove et améliore sans cesse ses produits, notamment une nouvelle gamme de stéthoscopes développée avec l'aide de l'École centrale de Marseille et du laboratoire d'acoustique du CNRS.
Nous avons beaucoup de projets d'innovation qui sont davantage tournés vers la e-santé et vers la démocratisation, on va dire, de l'automesure ou d'une manière générale, du recueil d'informations à domicile qui va permettre d'envoyer des datas fiables au médecin qui lui pourra poser un diagnostic. C'est tout l'enjeu de la télémédecine de demain.
Spengler produit chaque année 100 000 tensiomètres électroniques, 50 000 stéthoscopes ou encore 150 à 200 000 thermomètres. Et le savoir-faire de cette entreprise française plus que centenaire est reconnu dans le monde entier. Spengler exporte dans 85 pays.
Eh bien, on le voit, la France est quand même toujours et encore aux avant-postes dans ce secteur de la santé.
Et on ne le sait pas assez.
Et on le sait pas assez. Peut-être qu'on ne le dit pas assez, nous aussi, à la France. Bouge, on va le faire
on est
plus
là pour
souvent.
Ça.
Et on en parle notamment aujourd'hui avec vous, un professeur Fabrice Barlesi, directeur médical et de la recherche clinique de Gustave Roussy. On a parlé tout à l'heure un petit peu d'argent, mais on a peut-être oublié un point important. Vous avez besoin de l'argent de l'État, vous avez besoin de l'argent du privé, mais vous avez besoin de nos sous aussi. Vous avez besoin de la philanthropie, ça marche beaucoup outre-Atlantique. Comment faire pour que l'argent vienne mieux? Est-ce qu'il faut peut-être que l'on sache exactement à quoi va servir notre argent?
C'est clair que la générosité du public est extrêmement importante pour développer des programmes ambitieux. Et ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est que nos donateurs puissent être associés, comprendre les différents programmes de recherche et puissent même sélectionner les programmes de recherche pour lesquels ils vont
participer.
Comme
du mécénat privé, finalement.
Exactement. Et le but, c'est que les gens soient informés au fur et à mesure des avancées, de manière régulière, de ce qui se passe et qu'ils puissent se dire qu'ils ont, finalement, lorsqu'on arrive à un certain succès, qu'ils ont participé vraiment, clairement, à ce succès.
Ça représente combien, aujourd'hui, de votre financement, le mécénat privé?
Les particuliers. Globalement, si on regarde l'ensemble des budgets, c'est quasiment 10% du budget de Gustave Roussy.
Ah oui, quand même, c'est pas... Et si on veut donner, on va sur le site internet,
exactement,
on trouve tout ce qu'il faut.
Sur le site de Gustave Roussy, sur internet, et vous pouvez donner de manière régulière, effectivement, pour Gustave Roussy.
Il faut donner, c'est important pour Gustave Roussy. Professeur Fabrice Barlesi, vous êtes le directeur médical et de la recherche clinique à l'Institut Gustave Roussy. Vous allez sortir quelques minutes de la cancérologie, et quoique, parce que l'alimentation, c'est important aussi quand on est atteint de cancer, parce que là, vous allez écouter le projet d'une start-up qui tourne autour des compléments alimentaires.
Europe 1. Et il est 13h41.
Le pitch du jour, Inners.
Oui, des compléments alimentaires sous forme de poudre pour se faire du bien. Comment ça fonctionne? Réponse dans un instant. Une France bouge spéciale aujourd'hui à l'occasion de la Semaine internationale de la lutte contre le cancer avec l'un des plus grands spécialistes en France en la matière, Fabrice Barlesi, qui est le directeur médical et de la recherche clinique de Gustave Roussy, qui est le plus grand centre de lutte contre le cancer en Europe. On en vient maintenant à notre pitch, devant l'œil exigeant et attentif quand même de notre témoin du jour, donc le professeur Fabrice Barlesi, et devant Nathalie Carré de la CCI. Elle est déjà dans les starting blocks, je suis sûr qu'elle a déjà tout préparé pour vous.
Et on vous montre chaque jour dans la France bouge des personnes qui osent se lancer dans l'entrepreneuriat parce que la crise leur a donné des idées. Et elles ont raison, comme vous, Rose Bitterlin. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez 29 ans, vous avez fondé, il y a 3 mois, il faut le faire quand même, il y a 3 mois, fondé une boîte, bravo. Vous avez fondé Inners, c'est un complément alimentaire sans gélule, dans un packaging rechargeable. Et le tout, c'est sous la forme d'une poudre. Vous allez nous raconter, nous décrire votre produit. C'est parti pour le pitch, vous avez une minute.
Merci. Du coup, Inners, c'est une marque de compléments alimentaires qui se différencie de ce que vous connaissez des compléments alimentaires, à savoir pas de pilules, pas de gélules, pas de détox. On a vraiment délaissé les placards à pharmacie pour s'intéresser aux placards de la cuisine avec un packaging qui s'inspire du coup de l'épicerie fine. C'est un pot saupoudreur rechargeable. À l'intérieur, c'est un petit peu comme un condiment santé. Vous avez une poudre de probiotiques et de plantes adaptogènes à saupoudrer sur votre alimentation pour réveiller votre immunité et votre vitalité. Du coup, cette formulation, on l'a créée pour vraiment maximiser les synergies avec votre assiette. Chez Inners, c'est ce qu'on appelle l'alimentation holistique. Du coup, on fait vraiment le pont entre food et bien-être parce que vous savez que vos intestins, c'est votre deuxième cerveau, mais c'est aussi là où sont créés 80% de vos cellules immunitaires. Notre dernière particularité, c'est qu'on est non-genré. On s'adresse vraiment à tous et on a à cœur de remettre la santé, l'accessibilité et le plaisir dans la prévention.
Et ben voilà, je vous ai laissé terminer. Je sentais bien que la fin de phrase n'était pas loin. Combien ça coûte? Puisqu'à chaque fois, personne pense à le dire.
C'est fou ça.
26 euros la cure d'un mois, c'est
exactement.
Ça? J'ai les bonnes informations. Il faut prendre une fois par jour et c'est 3 grammes par jour, c'est ça?
3 grammes par jour à saupoudrer dans votre alimentation froide.
Sur quoi?
Ou boisson.
Dans les boissons, le matin et dans le thé, on le met?
Alors, tout ce qui est froid, puisque les probiotiques se désactivent avec la chaleur.
Okay.
Mais du coup, nous, on aime beaucoup l'utiliser dans les petites tartines sucrées, salées, les smoothies, les jus, yaourts, compotes.
Et ça a du goût?
Alors justement, on a essayé d'estomper le goût un petit peu amer de l'ashwagandha avec un arôme naturel de vanille, mais on ne le sent pas. Donc, pour pas dénaturer le goût des aliments.
Rose, chaque jour, Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie, épluche, analyse chaque dossier attentivement. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Rose, bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Nathalie, quelles sont les forces et les faiblesses de Inners?
Alors, trois forces d'Aja, c'est simple. Une cuillère dans son jus du matin, pas besoin de penser à sa gélule avant, après le repas, une demi-heure avant le repas, un quart d'heure après le repas, voilà. Donc là, au moins, c'est facile, c'est tout en un. C'est complet. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a d'un côté la gélule pour la vitalité, de l'autre les probiotiques, le troisième complément alimentaire pour autre chose. Là, on a un petit côté tout en un. Et puis le prix, qui est plutôt raisonnable par rapport aux autres compléments alimentaires du marché. Le point amélioré, je mettrais aidez-nous à choisir en fait. Pourquoi vous, plutôt qu'une gélule, une marque connue, expliquez mieux les ingrédients que vous utilisez. Pourquoi du bambou? Pourquoi les
c'est
souches
vrai,
de
vous n'avez pas trop mentionné les ingrédients dans le pitch.
Alors le bambou, c'est aussi pour protéger les probiotiques de l'humidité.
Ouais. Eh bien, dites-le. Pourquoi les souches de probiotiques que vous avez choisies? Pourquoi celle-là et pas d'autres? D'accord. Quelles sont les recommandations en fonction des âges? Comment savoir si j'ai besoin de votre produit? Bref, on a tellement de choix qu'il faut nous aider à choisir votre produit, apporter la preuve que votre produit est complet pour le plus grand nombre et que donc on a intérêt plutôt de vous choisir. Sinon, on hésite.
Surtout, et puis même votre parcours, parce que ça aussi, dans le pitch, je ne vous le dites pas, je crois que tout a commencé quand vous avez rencontré un naturopathe, c'est-à-dire que vous êtes deux cofondateurs ou cofondatrices, et l'aventure est partie de là.
Exactement, on a même commencé par notre propre expérience personnelle. On cumulait quand même les gélules, on prenait de la vitamine D, de la spiruline, propolis, etc. Et on en avait marre, en fait, de ce geste vraiment médicalisé tous les matins avec toutes ces gélules à dispo, quoi.
Je me tourne vers vous, professeur Fabrice Barlesi. Vous avez écouté attentivement le pitch de Rose pour Inners. C'est déjà, quel est votre sentiment? Et puis, on le sait, hein, c'est très important, la bonne alimentation pour les personnes atteintes de cancer.
Alors, non seulement pour ceux qui sont atteints, mais c'est également très important pour chacun d'entre nous pour éviter de tomber malade. On sait qu'il y a un certain nombre de recommandations très simples et standards. On sait aussi qu'effectivement, et comme ça a été dit, ce qui est ce qu'on appelle le microbiote, c'est le mot savant pour qualifier tout ce qu'il y a à l'intérieur de notre digestif, est extrêmement important. Avec Gustave aussi, on a un programme dédié qui est l'idée par le professeur Laurence Zitvogel sur comment notre microbiote influence potentiellement notre capacité à répondre ou à ne pas répondre à certains traitements et comment demain, on pourrait éventuellement modifier ce microbiote pour permettre à notre système immunitaire de mieux répondre, par exemple, pour lutter contre la maladie. Donc, c'est évidemment des sujets qui sont très importants. Et puis, comment est-ce qu'on peut aider les gens avec l'alimentation à mieux récupérer de leur maladie, à mieux vivre pendant leur maladie, à retrouver le goût lorsqu'il a pu être modifié, etc. Donc, c'est un enjeu majeur dans le cadre de la prise en charge
donc
de nos
validez.
Patients. Je valide.
Merci Rose. Avant de nous quitter, de quoi avez-vous besoin? Je crois que vous avez besoin de fonds. Hein.
Alors oui, c'est toujours d'actualité dans
combien
un futur proche. On serait entre 200 et 450 cas.
Et surtout 200 et 450 000 euros.
Voilà, pardon. Et surtout d'un réseau de distribution. Puisque
aujourd'hui, on vous trouve où?
Alors sur NutriShop, et là on est en train de choisir des commerces indépendants. Pour relayer, parce qu'on sait que les consommateurs ont toujours besoin de ce conseil au moment de l'achat et d'expliquer leurs problématiques.
Et Inner, ça veut dire ?
De l'intérieur, avec le S qui représente votre super organisme. Vous avez 39 000 milliards de bactéries dans votre microbiote. Et il faut en prendre soin.
Merci à vous, Rose Bitterlin. Ça s'appelle Inners. Donnez-nous de vos nouvelles. Hein. Ça, on est toujours intéressés de connaître la suite de nos candidats.
Et si vous aussi, vous voulez venir présenter votre projet, eh bien une seule adresse mail, e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et comme ça, vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge.
Professeur Fabrice Barlet, vous êtes le directeur médical et de la recherche clinique à l'Institut Gustave Roussy. Vous restez encore avec nous, suite et fin de notre émission.
Et il est 13h50.
À suivre demain au travail, notre société change, nos entreprises aussi, comme cette entreprise qui fait tout pour que les malades atteints de cancer reviennent normalement au travail.
Oui, on va appeler WeCare at Work tout de suite. Et à l'occasion de la semaine internationale de lutte contre le cancer, nous sommes avec le professeur Fabrice Barlesi, directeur médical et de la recherche clinique à l'Institut Gustave Roussy. La France Bouge, suite et dernière partie de l'émission, c'est le moment de demain au travail. Dans La France Bouge, on met en avant les entreprises qui placent le facteur humain au centre de leurs préoccupations.
Et dans un monde professionnel où l'on doit être bien portant, performant, la maladie et l'entreprise se côtoient très peu. Bonjour Anne-Sophie Tuzinski.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Merci à vous. Vous êtes la dirigeante de WeCare at Work. Ce sont une dizaine de salariés. Et c'est une entreprise bien particulière, hein, puisque c'est une start-up de personnes qui ont été malades, qui ont été atteintes de cancer. C'est aussi un organisme de conseil et de formation qui met à disposition des entreprises, eh bien, leur expertise, enrichit leur expérience de la vie et de la maladie. Vous êtes en quelque sorte des patients salariés experts ?
Oui, on peut le résumer comme ça. En fait, la maladie nous a donné une idée. Nous avons constaté que les traitements thérapeutiques eh bien, nous permettent aujourd'hui de vivre et de travailler après ou pendant d'ailleurs une maladie, mais que la société, les employeurs n'étaient pas préparés. Et donc, nous avons décidé eh bien, de créer notre entreprise pour les aider à mieux concilier maladie et travail.
Comment ça se passe du coup ? C'est une vie au bureau qui est très ouverte, qui est très bienveillante. Vous adaptez, j'imagine, les horaires, parce que c'est aussi bien des malades, des anciens malades et des aidants également. Hein.
Exactement. Et c'est aussi ce que nous proposons d'ailleurs à nos clients. Alors, la vie de notre entreprise, elle est complètement adaptée aux conséquences des traitements, qui peuvent être d'aller à des rendez-vous médicaux régulièrement, qui peut être des pics de fatigue, des difficultés de concentration, parfois des pertes de mémoire. Donc, c'est vraiment une vie d'entreprise très ouverte, où la parole est extrêmement libérée et où chacun, en fonction de ses contraintes, eh bien, adapte son rythme de travail. Finalement, c'est le travail qui s'adapte à nous et pas l'inverse.
Alors, du côté des entreprises, puisque vous leur apportez des conseils, quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent ?
La première question, c'est est-ce que je peux parler d'un sujet aussi tabou que le cancer ou la maladie dans mon entreprise ? Puisqu'on n'est pas malade au travail. Quand on est malade, on est en arrêt maladie. On vit dans un monde un peu binaire. La réalité, vous le savez, est bien plus compliquée que cela. Et donc, les entreprises ont des difficultés à ouvrir le dialogue. C'est ce en quoi nous les aidons. Nous formons également les directions des ressources humaines, les comités de direction, mais aussi les managers opérationnels. Et puis, nous avons tout récemment développé un outil, une solution digitale qui, elle, est destinée spécifiquement aux patients et qui s'appelle Alex. C'est le coach digital pour concilier son parcours de soins et sa vie professionnelle dans les meilleures conditions.
Fabrice Barlesi, je rappelle que vous êtes le directeur médical et de la recherche clinique à l'Institut Gustave Roussy, se pose toujours la question de comment travailler quand on a un cancer. Quelle est votre méthode à vous ? Est-ce que vous conseillez entre deux traitements, si le médecin le permet, de retourner au travail ou plutôt d'être en pause totale de façon à être le mieux possible peut-être face au traitement ?
C'est évidemment très variable d'une situation à l'autre, d'un patient à l'autre.
Du métier aussi.
Bien sûr, du métier. Et puis de l'appétence que les patients peuvent avoir. Il y a forcément beaucoup d'appréhension au départ des traitements qu'on ne connaît pas bien. Et puis finalement, les traitements qui aujourd'hui sont, pour certains en tous les cas, de mieux en mieux tolérés, permettent aux patients d'exprimer l'envie de se réinsérer le plus vite possible dans ce qui est leur vie normale. Et du coup, dans ces conditions-là, on essaye de les guider, de les aider. Alors ça peut être, c'est le plus souvent une reprise du travail qui peut être progressive, avec des mi-temps thérapeutiques, mais ce qui a été dit est très vrai, c'est-à-dire que finalement, il y a aujourd'hui beaucoup d'appréhension, de méconnaissance autour de ça, et il y a certainement une aide importante à apporter à ces patients et à ces entreprises.
Anne-Sophie Tuzinski, je rappelle que vous êtes la fondatrice de WeCare at Work. Alors ma question va sûrement être idiote, mais comment vous faites pour recruter ces gens, puisqu'en soi, on n'a pas le droit logiquement de sectoriser ainsi. Comment vous faites pour être sûr des gens qui ont cette expérience de vie ?
Alors, on ne sectorise pas, en fait. D'abord, on a beaucoup de candidats qui viennent vers nous, qui ont envie de rejoindre l'aventure. Et l'expérience de vie de la maladie, elle fait partie de notre grille de compétences, mais elle n'est pas exclusive. Donc, on a une équipe qui est composée aujourd'hui exclusivement de personnes malades ou d'aidants proches, mais demain, elle sera possiblement composée d'autres personnes et d'autres profils. L'entreprise est ouverte et pas discriminante.
Une entreprise ouverte. Merci à vous, Anne-Sophie Tuzinski. Vous êtes la dirigeante de WeCare at Work. Vous militez pour une meilleure intégration des malades du cancer au sein des entreprises et vous les conseillez d'ailleurs, ces entreprises. C'est la fin de notre émission. Merci à vous, professeur Fabrice
merci
Barlesi. On a passé un très très joli moment avec vous. Vous êtes le directeur médical et de la recherche clinique à l'Institut Gustave Roussy.
On parle de quoi demain, Elisabeth ?
Eh bien, demain, on va parler... Ça fait un an que nous sommes en télétravail, enfin, pour la plupart des Français.
Il y a
nous,
un an tout juste, on partait avec nos ordinateurs sur le dos.
Vrai.
Europe 1 faisait une expérience inédite dans le monde de la radio en France, en télétravail
100%
total.
100% d'antenne en télétravail.
Et on en tirait le bilan, tout simplement. Quelles sont les conséquences pour notre vie au travail ? Ce sera le thème de l'émission avec le professeur Delgène demain.
Et restez sur Europe 1, dans un instant, le flash, suivi de Christophe Ondelat.
Europe 1, la France bouge.